Alors, la vision de ce film, je trouve ça vraiment très intéressant, la description de cette... C'est une utopie, hein, on peut appeler ça une utopie. Aussi bien du point de vue du vivre ensemble que du fait de proposer une façon différente d'aborder la notion de propriété, la notion de se loger et puis d'interagir les uns avec les autres dans la vie de tous les jours. Moi qui suis justement en train de chercher un endroit où je vais m'installer pour vivre, ça me questionne aussi sur les choix que je peux avoir à faire pour mon futur logement.
En fait, moi, j'ai beaucoup de... En fait, quand on voit le film, c'est vrai que le film fait mal en quelque sorte, et en même temps, il énerve. Parce que quand on voit tout ce qui est broyé sur la zone, les arbres, toutes les baraques, il plie en deux la communauté. Belle communauté, quoi, des habitats... super originaux, écolo, et derrière il n'y a pas de résistance, un peu comme à la ZAD, où d'un côté il y a une résistance symbolique, on va dire avec des spectacles, enfin une résistance plutôt pacifique, mais de l'autre côté il n'y a pas, on voit les bulldozers qui arrivent et les gens sont à côté, ils voient alors la zone qui est complètement mise à sac, et il n'y a pas de résistance physique. Et pour moi, ça, on est les bras ballants devant ça, et ça fait mal, quoi. Ça demande la réaction quasiment. Moi, je suis prêt à sauter du siège, quoi. En quelque sorte, quoi.
Est-ce que tu peux nous préciser quelle est l'histoire de ce film, Quartier Libre, et ce qui t'a amené à le réaliser ?
L'histoire de ce film, en fait, c'est un film sur un quartier d'habitation alternatif à Louvain-la-Neuve, et c'est un quartier dans lequel j'habite depuis 20 ans, et c'est un quartier qui existe depuis 40 ans. Donc ce qui m'a amené à faire ce film, c'est d'y habiter, d'y vivre, et puis de me dire qu'il fallait laisser une trace de ce mode de vie, de ce qui se passait, surtout au vu de l'actualité, parce que voilà, à un moment donné, il était question qu'un parking de 3000 places vienne déloger certains logements de ce quartier, et c'est à ce moment-là que l'envie de faire le film s'est complètement concrétisée, parce que je me suis dit que c'était, voilà, qu'il fallait laisser une trace de ça. Et donc voilà, c'est pour donner un peu une idée, c'est un quartier où il y a 160 habitants, qui existe depuis plus de 40 ans, qui est un terrain squatté à 30 km de Bruxelles, et où vivent une quarantaine d'enfants, des familles, des gens d'un peu tous les horizons, qui se choisissent pas forcément. Donc c'est très diversifié, il y a tout le monde ne pense pas de la même manière, mais c'est un lieu de vie collectif et autogéré.
Ce film, Un quartier libre, il est présenté au LAG, le lieu autogéré, hein, du bassin minier, dans le cadre du festival Bobine Rebelle. Lieu autogéré, le LAG, donc ça fait forcément résonance avec ce que tu viens de dire, ça fait forcément résonance avec le film Quartier libre, qui se déroule, tu l'as dit, à la baraque, un quartier autogéré à 30 km de Bruxelles. Alors comment est-ce que ça fonctionne, l'autogestion, à l'échelle d'un quartier ?
En tout cas, dans ce quartier-là, ça fonctionne de plusieurs manières. C'est-à-dire que, donc, vu le nombre d'habitants qu'il y a, il y a des sous-quartiers. Donc il y a trois sous-quartiers. Et donc dans chaque sous-quartier, il y a des façons de décider de s'organiser différentes. Il y a une partie, donc un des sous-quartiers qui fonctionne, qui vote assez vite, donc c'est une autogestion, mais où le vote a une place. Il y a une autre partie, un autre sous-quartier où le vote n'est jamais d'actualité, donc c'est toujours au consensus. Et encore la troisième partie, elle fait carrément pas de réunion, et donc c'est plus de manière informelle qu'elle s'organise. Et puis il y a les réunions de grands quartiers où là... Il y a un tiraillement entre une autogestion au consensus et puis une autre façon de décider qui est de voter avec une majorité. Et donc, en général, on essaie quand même d'aller vers le consensus puisqu'il y a une grosse partie du quartier qui ne veut pas voter. Et donc, les décisions se prennent tous ensemble, en tout cas avec ceux qui veulent s'investir, ceux qui ont un peu de temps et surtout de l'envie et du courage. Parce que parfois, une décision assez simple peut prendre un an, deux ans, 10 ans, selon l'importance et selon chacun, chacune, comment il réfléchit, comment il veut bien faire des consensus ou pas par rapport à ses propres limites.
Typiquement, parce que ça nous intéresse effectivement beaucoup à Micro-Rebelles, hein, de labourer ce terrain d'autogestion. Ces réunions, elles ont lieu tous les combien? Elles réunissent combien de personnes? Et puis, quelles sont les questions qui se posent? Quelles sont les thématiques abordées lors de ces questions au sein de ce que tu appelles le petit quartier, le grand quartier?
Alors, ce qui se gère en petit quartier, c'est tout ce qui est le logement. Donc, si quelqu'un veut agrandir, si quelqu'un veut s'installer à tel ou tel endroit, c'est par sous-quartier que ça se décide. Donc, est-ce qu'il y a encore assez de place? Est-ce que ça ne mange pas trop d'espace vert? Il faut savoir que le terrain, il n'y a pas de voiture, donc... l'idée c'est que toutes les maisons sont au milieu de la nature, des arbres, etc. et que les logements sont très petits. C'est un choix collectif qui est que si les logements sont petits, ben, y en a un peu plus et donc il y a plus de gens qui peuvent y vivre et que l'espace extérieur ben, est collectif commun. Et donc là c'est pareil, c'est en petit sous-quartier que ça se décide de l'espace commun, comment l'aménager, faire des week-ends de chantier collectif où on réaménage les chemins, où on fait la taille des arbres, etc. Et alors, en réunion de grand quartier, c'est plus l'enjeu général du quartier avec la commune, avec l'université de la ville, parce que c'est une ville universitaire, et donc le propriétaire du terrain, c'est l'université. Et donc, il y a des négociations à faire avec les pouvoirs politiques et les propriétaires. Et donc ça se gère en grand quartier. Et là, alors à ce moment-là, on demande à des représentants du quartier, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, des négociateurs, on va les appeler, qui vont négocier pour le quartier bah, une pérennité ou des espaces. Enfin, voilà, quand on s'est fait amputer une partie du quartier, bah, il a fallu négocier un espace pour reloger les gens, etc. Il y a beaucoup de choses à gérer en grand quartier. La temporalité des réunions n'est pas définie. Donc si on a besoin, on fait des réunions. Si on n'a pas besoin, en grand quartier, ça arrive que pendant un an, il n'y ait pas de réunion. Après, ça se sent parce que ça veut dire qu'il y a moins de cohésion, mais voilà, il n'y a pas une régularité ni dans les sous-quartiers, ni dans le grand quartier.
Ce qui m'interpelle dans ce que tu me dis, c'est le consensus, autrement dit le fait de débattre au consensus. Comment c'est appréhendé? Parce que tu évoques par exemple les questions d'un habitant ou d'une habitante qui veut agrandir... sa maison ou son terrain. Donc il y a aussi des questions d'intérêts personnels qui peuvent s'opposer à d'autres intérêts personnels, donc avec émergence de conflits. Hein, dans tous les groupes, il y a des conflits qui se font jour. Le consensus permet bien de régler ça, ça prend du temps. Comment c'est vécu?
Je dirais que la plupart du temps, c'est bien vécu, que ça prend beaucoup de temps et que je pense qu'il y a un moment donné où... Les gens qui vont rester longtemps en quartier, c'est des gens qui ont la patience du consensus ou de la lenteur du collectif. Et puis il y a des gens qui vont être usés par ça et donc s'en aller. Après les conflits, il y en a. Et les plus gros, les plus difficiles, en effet, le consensus, c'est un truc très fatigant parce que c'est arrivé que le groupe doit faire, je ne sais pas moi, une dizaine de réunions pour un conflit entre deux familles, pour une histoire d'arbres. Et sans trouver de solution. Donc voilà, on a fait appel à un médiateur extérieur, et il n'y a pas eu de solution non plus avec le médiateur extérieur. Donc ça, par exemple, ça reste un conflit, où on ne peut pas... Il n'y a aucune des deux familles, n'a raison, n'a tort, et voilà, et je pense qu'au-delà des arbres, parce que parfois, bah, il est arrivé du coup qu'on décide de couper l'arbre, parce qu'il y avait plusieurs arbres. Ou de ne pas couper certains arbres, mais ça n'a pas résolu le conflit. Je pense que il y a des conflits qui sont au-delà aussi des choses physiques, des problèmes directs, et on ne sait pas, voilà, on ne sait pas tout régler collectivement, on sait pas. Mais le groupe va quand même fort loin dans l'accompagnement de ce genre de conflit. Après, ben, des fois, ben, les gens s'en vont parce que c'est trop dur, parce que voilà, il y a des incompatibilités interpersonnelles comme partout, et qu'il y a énormément de gens, et qu'il y a, ben, voilà, ça fait partie du jeu, quoi, entre guillemets.
Très bien, je te remercie, Vinciane. Alors, tu évoquais l'actualité, et ton film, hein, Quartier Libre, relate la vie de ce quartier autogéré, bousculé par la construction d'un gigantesque parking de 3000 places. Et dans l'actualité nationale en France, on peut peut-être même dire internationale, hein, c'est sans doute à une autre échelle, mais ça nous ramène à la lutte Notre-Dame-des-Landes contre l'aéroport. C'est un parallèle que je fais peut-être un petit peu facilement entre ce quartier, la baraque à Louvain, et Notre-Dame-des-Landes, mais Est-ce que ce parallèle te parle? Est-ce que tu l'acceptes, ce parallèle? Et puis, d'une manière plus générale, puisqu'on évoque des luttes, est-ce que la multiplication de ces lieux de lutte, hein, lieux autogérés, ZAD, zone à défendre, traduit un renouvellement de l'engagement politique, du militantisme? Voilà, il y a beaucoup de questions, je te laisse faire le tri entre tout ça.
Tout d'abord, par rapport au parallèle avec la ZAD, je pense qu'en effet, ça fait complètement écho. Et c'est vrai que cette semaine, ils sont en train de démonter complètement la ZAD. Et moi, j'ai revu le film avant-hier à Bruxelles parce qu'il était projeté. Et ça, c'était assez... moi ça m'a touché parce que je me suis dit pourtant je le connais par cœur le film, mais j'ai pensé vraiment à la ZAD. Je pense que la baraque a été construite pas pour défendre une zone, mais a été construite pour faire une expérimentation de vie alternative il y a 40 ans par des étudiants en architecture qui voulaient expérimenter l'habitat en roulotte, en cabane, etc. Donc il n'y avait pas un enjeu de défendre un terrain. Ce qui est le cas à la ZAD, c'est plutôt pour empêcher l'aéroport de s'installer, ce qu'ils ont réussi à faire, ce qui est quand même chouette. Enfin, ça montre à quel point il est possible de lutter même contre des énormes projets. Nous, quand le parking est arrivé, disons qu'on n'a pas lutté. Donc c'est une histoire un peu à l'envers par rapport à la ZAD où... on s'est retrouvé un peu coincé dans une situation où les propriétaires, donc l'université et la commune, nous a promis une régularisation, une pérennité du quartier si on laissait construire ce parking. Et avec un argument écologique qui est que c'est un parking de dissuasion, donc un parking de délestement pour que les gens aillent en RER à Bruxelles. Sauf que le RER n'existe pas, donc il est en construction depuis, je dirais, 10 ans et il ne sera pas prêt avant 2030. Mais le parking donc est fini, il est fait, donc cette histoire est finie, entre guillemets. C'est un peu l'histoire du film avec le portrait du quartier dans ce contexte-là. Mais disons que donc on aurait pu faire une ZAD à ce moment-là, une zone à défendre, pour dire le quartier c'est une zone d'expérimentation magnifique. Au niveau écologique, il y avait des arbres incroyables qu'ils ont tout arraché. Il y avait une zone vraiment assez intéressante. Et on l'a pas fait. On l'a pas fait collectivement. Ça c'est complètement même pas. Il y a même pas eu un embryon de ça parce qu'il y a une pression de la part des politiques qui était tellement énorme et un chantage, je vais appeler ça comme ça, même si c'est un peu peut-être simplificateur, un chantage qui a été fait sur on vous promet une régularisation. Après, la promesse, elle n'est pas fausse dans le sens où, en effet, pour le moment, on est dans un processus de pérennisation et de régularisation et les politiciens se sont engagés pour la première fois de manière officielle à ce que ça se fasse. Donc, c'est vrai qu'une incertitude de plus de 40 ans sur un lieu de vie, etc., en train de passer à autre chose, quoi.
Toute lutte a ses débouchés et puis ses volontés de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Alors, peut-être une toute dernière question, Vinciane, si tu es d'accord, qui n'a pas tellement de rapport avec le film, plutôt une question sur ton activité. Alors, comment s'inscrit Quartier Libre dans ta filmographie? On m'a dit, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Et puis, surtout, peut-être, quels sont les projets dans lesquels tu es actuellement investi? Qu'est-ce que tu as envie de faire?
Alors en termes de cinéma, moi c'est mon premier film subventionné, j'ai fait une école de cinéma assez récemment et donc c'est le premier film vraiment subventionné. Après j'ai fait d'autres projets sans argent, etc., mais qui du coup a moins de possibilités de diffusion. Après moi dans mes activités, je travaille dans une maison des jeunes autogérée, j'ai un peu des obsessions par rapport à ça où pour moi c'est important de témoigner justement de ces luttes, de cette façon de s'organiser, de cette manière de prendre en considération les autres comme des êtres intelligents et capables de décider par eux-mêmes. Et c'est ce que je pense il se passe quand on s'organise en autogestion, ce qui est le cas du quartier et ce qui est le cas du lieu où je travaille. Après, par rapport à d'autres projets de films, il y en a plein. Maintenant, peut-être que ça sera dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, je ne sais pas. C'est tellement lent et long à faire.